VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorcil et Morgane Guériec. Bienvenue à l'édition de ce vendredi 10 juillet.
À la une ce soir, le Burundi. Les autorités acceptent de reporter la présidentielle du 15 juillet alors que la crise politico-militaire persiste dans le pays. Ebola au Libéria, 5 nouveaux cas confirmés selon l'OMS alors que l'épidémie a été déclarée éradiquée en mai dernier. Retour sur l'inculpation de l'ancien leader militaire guinéen Moussa Dadis Camara.
J'ai tout simplement pris acte de son inculpation. J'ai demandé que le dossier de la procédure soit mis à ma disposition pour mieux le préparer.
Maître Jean-Baptiste Jacomé Abba, avocat de Moussa Dadis Camara.
Jour J à Vienne pour les négociations sur le nucléaire iranien, mais l'accord final se fait encore attendre.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Au Burundi, selon les médias locaux, des combats ont été signalés aujourd'hui entre les forces armées et des membres d'un groupe armé dans la province de Kayanza, dans le nord du pays. Par ailleurs, les autorités ont finalement donné leur feu vert pour le report de l'élection présidentielle qui devra tout de même se tenir avant fin juillet. Bagassi Koura.
Selon un communiqué de la présidence burundaise cité par l'AFP, les autorités ont demandé à la commission électorale de travailler à un report de la présidentielle prévue le 15 juillet, mais pas au-delà du 26 juillet. Les chefs d'État de la communauté est-africaine, eux, avaient demandé le 6 juillet à Dar es Salaam un report de la présidentielle au 30 juillet. Le gouvernement a instruit les services techniques compétents de mettre en œuvre la recommandation du sommet des chefs d'État, a indiqué son porte-parole Philippe Nzobonariba dans ce communiqué. Ce report sera toutefois mis en œuvre dans le strict respect des exigences constitutionnelles en termes des échéances à ne pas dépasser, poursuit le porte-parole du gouvernement burundais. C'est désormais au chef de l'État de fixer par décret la nouvelle date de l'élection.
Élection au Rwanda, le Parlement débattra la semaine prochaine du lancement d'une procédure de révision constitutionnelle visant à supprimer la limitation du nombre de mandats présidentiels. Cette mesure réclamée par près de 4 millions de pétitionnaires pourrait permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017.
République du Congo, l'ouverture du dialogue national sur l'avenir des institutions a été reportée au lundi 13 juillet. C'est ce qu'indique l'AFP citant un décret présidentiel. L'opposition y voit un possible stratagème qui pourra ouvrir la voie à un changement de constitution afin de permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016.
Selon l'agence France Presse, les deux principaux adversaires du président ougandais, Yoweri Museveni, ont été libérés sans être inculpés. Le point avec Félix Yepassis Zembro.
Deux responsables de l'opposition ougandaise, adversaires déclarés du président Yoweri Museveni à la présidentielle, ont été libérés tard dans la soirée de jeudi après avoir été détenus plusieurs heures par la police pour avoir tenté d'organiser des meetings électoraux sans autorisation. L'ancien Premier ministre Amama Mbabazi ainsi que Kizza Besigye, l'une des principales figures du parti d'opposition Forum pour le changement démocratique, FDC, avait été arrêté jeudi alors qu'il s'apprêtait à participer à des rassemblements politiques, rappelle l'AFP. La police ougandaise a averti à plusieurs reprises que les rassemblements politiques sans autorisation ne seraient pas tolérés. Les organisateurs doivent soumettre tous les détails d'un rassemblement à la police 3 jours au moins avant sa tenue. Yoweri Museveni est accusé par ses opposants de vouloir s'accrocher à un pouvoir qu'il détient depuis 1986.
5 personnes ont été égorgées jeudi soir à Bagaya, au sud-est du Niger, près de la ville de Bosso, non loin de la frontière avec le Nigeria. C'est ce qu'indique l'AFP, citant les autorités locales qui ont attribué l'attaque aux islamistes de Boko Haram. Les victimes seraient 5 employés d'une société nigérienne. Les assaillants seraient arrivés au crépuscule, juste après la rupture du jeûne du Ramadan.
Boko Haram a attaqué hier soir la ville de Bouniyadi, dans le nord-est du Nigeria. Nathalie Barche.
La ville de Bouniyadi, à environ 50 km au sud de Damaturu, la capitale de l'état de Yobe, a été attaquée vers 20h, selon des sources militaires nigérianes qui n'étaient pas en mesure de dire si les combats ont fait des victimes. Ils sont arrivés à bord de 9 pick-up et ont ouvert le feu, a-t-on dit de même source citée par Reuters. De nombreux habitants ont fui à Damaturu, a déclaré Ibrahim Mohamed, membre d'un groupe de milices d'autodéfense pro-gouvernementale ajoutant qu'ils ont voyagé toute la nuit pour éviter d'être capturés ou tués par les insurgés. Ce vendredi matin, un détachement de troupes avec des véhicules blindés et un avion de chasse en direction de Bouni Yadi ont été observés par des habitants. C'était l'une des villes capturées par le groupe d'insurgés en 2014, puis reprise en mars dernier par l'armée nigériane. Les salafistes ont repris de larges pans de territoire l'année dernière, mais ont été repoussés dans leur bastion, dans la réserve forestière de Sambisa, grâce aux efforts combinés des forces nigérianes et régionales. Le groupe Boko Haram a depuis été dispersé et il est revenu à des tactiques de guérilla, comme de frapper des villes en dehors de l'état de Borno, son principal bastion.
Au moins 5 personnes ont été identifiées au Libéria comme souffrant de la fièvre à virus Ebola, signalait aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. En fait, l'épidémie était toujours présente au Libéria quand son éradication y a été proclamée en mai. Camille Grodidier explique.
Le Libéria avait été officiellement déclaré exempt du virus de la fièvre hémorragique à Ebola le 9 mai, soit 42 jours ou deux fois la durée maximale d'incubation, après l'enterrement le 28 mars du dernier cas connu. Mais vendredi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré sur la base de nouvelles analyses que l'Ebola n'avait jamais vraiment disparu du pays. Les résultats montrent que le virus qui a fait de nouvelles victimes récemment est très proche de celui qui circulait dans ce secteur du Libéria, a déclaré Tariq Jasarevich, porte-parole de l'OMS, confirmant les premières analyses génétiques obtenues par l'agence Reuters.
Agression d'un diplomate sénégalais par des policiers dans un aéroport de Tunis. Le Sénégal dit avoir reçu des autorités tunisiennes l'assurance de sanctions appropriées contre les auteurs.
Et en Somalie, un commando d'hommes armés a attaqué un hôtel de la capitale Mogadiscio, selon la police, qui fait état d'explosion et d'une fusillade.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est le jour J à Vienne pour les négociations sur le nucléaire iranien et l'accord final se fait encore attendre. Toutefois, le président russe Vladimir Poutine, dont le pays est l'un des membres du groupe 5+1 discutant avec l'Iran, a prédit ce matin qu'un compromis sera bientôt trouvé. J'espère que bientôt tous les documents nécessaires seront signés avec un accord sur les garanties, a-t-il indiqué. Après 2 semaines de discussion dans la capitale autrichienne, les parties s'achoppent encore sur les détails concernant la levée des sanctions et la vérification effective des activités nucléaires en Iran. Le groupe 5+1 veut garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien, tandis que Téhéran souhaite se débarrasser immédiatement, après l'accord, de toutes les mesures imposées par la communauté internationale, y compris un embargo sur l'achat d'armement.
25 morts et plus de 50 blessés, tel est le bilan provisoire d'une bousculade aujourd'hui dans le nord du Bangladesh. Plusieurs centaines de personnes démunies voulaient profiter d'une distribution de vêtements gratuits, a précisé une source policière citée par l'AFP. La première ministre Sheikh Hasina a fait part de sa profonde émotion et a exprimé son soutien aux familles endeuillées après cette tragédie, selon l'agence nationale BSS.
Moment historique en Caroline du Sud, ici aux États-Unis, une garde d'honneur a descendu ce matin le drapeau confédéré qui avait flotté sur les locaux du Parlement régional pendant plus de 50 ans. La gouverneure de l'État, Nikki Haley, a signé hier une loi adoptée par les deux chambres de l'Assemblée en vue du retrait permanent de ce drapeau que nombre d'Américains voient comme un symbole de racisme et de division. La décision intervient 3 semaines après le meurtre en Caroline du Sud de 9 paroissiens noirs par un jeune suprémaciste blanc qui avait posté sur un blog ses photos avec le drapeau confédéré.
Aux États-Unis, ce ne sont pas 4,2 millions de personnes qui ont été touchées par le piratage d'une base de données du gouvernement, mais 21,5 millions, y compris des conjoints ou des enfants de fonctionnaires fédéraux. Claire Morin-Gébourg.
Le piratage des employés de la fonction publique américaine se révèle d'une ampleur inattendue. Le gouvernement a annoncé hier que les hackers avaient dérobé les informations personnelles de 21,5 millions de personnes, dont 19,7 millions sont des employés qui avaient subi une vérification d'antécédents pour accéder à un poste dans l'administration. Les données dérobées portent sur leurs éventuels antécédents judiciaires, mais également sur leur santé, leurs finances ou leur famille. Divers officiels ont, en privé, blâmé la Chine pour cet acte de piratage. Mais quand un responsable du Conseil national de sécurité a été formellement interrogé sur ce sujet, il s'est contenté de dire que l'enquête se poursuit. Pékin a, de son côté, dénoncé des allégations irresponsables et sans fondement. Fin juin, lors d'une rencontre à Washington avec de hauts responsables chinois, le secrétaire d'État américain John Kerry s'était dit profondément préoccupé par les questions de cybersécurité, évoquant en particulier des dommages causés aux entreprises américaines.
Le chef de l'Église catholique romaine a mis fin à son passage en Bolivie par la visite de la prison de Palma Sola, surpeuplée et réputée très dangereuse. Construite pour abriter environ 800 détenus, elle en compte maintenant 5000. 36 personnes sont mortes il y a 2 ans dans ce centre pénitentiaire lors d'une bataille entre gangs rivaux. Le pape François terminera son 3e voyage pastoral de l'année au Paraguay. Dans le cadre de cette tournée, il a déjà visité l'Équateur en début de semaine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Les dirigeants du consortium indo-camerounais Justin Sugar Mills ont décidé de saisir les tribunaux compétents pour réclamer à l'État camerounais un dédommagement de 13 milliards de francs CFA, rapporte l'agence de presse africaine. La décision intervient suite à la résiliation par les autorités d'un contrat de projet agro-industriel sucrier au profit du groupe marocain Cosumar. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur va octroyer des prêts aux Sénégalaises établis au Maroc pour des projets d'entreprise, rapporte l'APA. Le FES finance des projets entre 5 et 10 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 6%, un différé de paiement de 6 mois et une durée de remboursement de 5 ans. Pour en bénéficier, les Sénégalais expatriés doivent apporter 10% du montant sollicité. Le Burkina Faso est en négociation avec General Nice International Mining sur le litige qui les oppose dans l'exploitation du gisement de manganèse de Tambao. En 2013, le groupe minier indien avait assigné le gouvernement burkinabé devant la Chambre de commerce internationale pour rupture de contrat. Il aurait investi plus de 35 milliards de francs CFA en 2010 et 2011 et aurait repris les activités d'exploration. Le Burkina Faso et le groupe Pan African Minerals ont signé en 2012 une convention de 350 milliards de francs CFA pour l'exploitation. Le groupe minier indien estime être le partenaire légitime de Ouagadougou pour la mine de Tambao.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie Barge.
L'actualité sportive en résumé, Bagassi Koura nous rejoint au studio 13. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
On commence par le programme de la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des Champions ce week-end.
Oui, dans le groupe B1, déjà ce vendredi, le duel entre Algériens, l'USM Alger, joue contre le El Merrekh du Soudan, duel entre Algériens et Soudanais plutôt. Demain samedi, ce duel maintenant entre Algériens, le MC El Ulma, joue contre l'AS Sétif d'Algérie.
Et dimanche?
Oui, dans le groupe A, dimanche, El Hilal du Soudan affronte Soumoua d'Égypte et les corbeaux du TP Mazembe en RDC en 2 coups de rang avec les Marocains du Maghreb Tétouan.
Parlons maintenant de la Coupe de la Confédération qui se dispute également ce week-end. Je veux parler de la deuxième journée, les phases de poule.
Oui, à suivre, en particulier samedi, le classico tunisien entre l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel dans le groupe A. Et toujours dans ce même groupe, le Stade malien affronte Al-Ali d'Égypte. Dans le groupe B, les Léopards de Dolizé au Congo-Brazza seront en déplacement en Tunisie pour affronter le 16 Faxien. Ce sera samedi, le choc au sommet entre Orlando Pirates et Zamalek d'Égypte.
Et on reste Bagassi sur le continent. Tirage au sort du tournoi de football des Jeux africains.
Oui, le tirage au sort de ce tournoi a été effectué ce jeudi au siège de la CAF au Caire. Le Congo, pays organisateur, est épargné dans le groupe A avec Soudan, Zimbabwe et Burkina Faso. Alors que le second groupe sera un groupe de la mort avec le Ghana, le Sénégal, l'Égypte et le Nigeria.
Cyclisme, Tour de France, 7e étape.
Oui, c'est le Britannique Mark Cavendish des Etixx qui a remporté cette 7e étape du Tour de France ce vendredi à Fougères. C'est son 26e succès dans ce tour. Son compatriote Chris Froome de Sky a endossé le maillot jaune abandonné par l'Allemand Tony Martin. Après sa chute du Havre, aucun maillot jaune ne figurait dans le peloton. Durant cette étape, Cavendish a devancé au sprint l'Allemand André Greipel, vainqueur des 2 sprints disputés depuis le départ, et le Slovaque Peter Sagan.
Et pour les fans de basket américain, je dirais que LeBron James restera à Cleveland. Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Robin Dorsil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Burkina Faso.
Pour parler de la création par la présidence d'un conseil des sages, question d'analyser les récents développements politico-militaires dans le pays et envisager le sort que mérite le lieutenant-colonel Isaac Dida, Premier ministre, dont la démission est réclamée par divers secteurs. Au micro de notre correspondant Zoumana Wonogo, des Burkinabés s'expriment sur la crise.
Bonsoir, moi c'est Hervé Ouattara, je suis le président de Citoyens Africains pour la Renaissance, car ce qui est important pour moi aujourd'hui, que le RSP puisse connaître son rôle dans un État républicain et que le RSP sache qu'il n'est pas au-dessus, j'ai dit, des lois burkinabées, le RSP n'est pas au-dessus de sa hiérarchie, le RSP ne doit pas être une armée dans une armée. Notre pays a toujours surmonté ces genres de crise, donc le cadre de concertation qui vient de se mettre en place et qui regroupe, j'allais dire, les sages de notre pays, c'est une bonne chose. Je pense que aujourd'hui, il faut vaille que coûte que cette transition demeure.
Moi, c'est Seydou Zangré, je suis le président de l'association jeunesse du secteur informel du Burkina Faso. Concernant le Premier ministre Dida et le RSP, en principe, il faut laisser le RSP là où il est, en attendant qu'un nouveau président vienne trouver la solution et en tenant compte de leurs conditions de travail. Ce qu'ils gagnent ne diminue pas. Même si vous ne pouvez pas ajouter, il faut les laisser comme ça. Il faut les rassurer. De mon point de vue, il faut que les civils laissent les militaires régler leurs problèmes. C'est parce que les civils aussi se mêlent qu'on dit qu'il y a crise. Ils se connaissent. Zida vient de là-bas. Ils sauront comment faire pour trouver des solutions. En ce qui concerne la création du collège des sages, j'apprécie sincèrement la demande de son excellence, monsieur le président du Faso. Lui-même, c'est un sage. À son âge, c'est un sage. S'il veut maintenant mettre en place un comité de sages, plus lui sa sagesse, on ne peut pas ne pas trouver des solutions.
Rahim Sawadogo, chirurgien dentiste résident à Ouagadougou. Pour ce qui est de ce qu'on a appelé crise RSP Zida, nous avons toujours été du côté de Zida, tout simplement parce que nous sommes du côté de la transition. La décision de créer un cadre de concertation des sages. Je peux dire que c'est très sage. Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit, ben voilà, au moins on est sûr, plus de crise jusqu'au 11 octobre. Dans la mesure où ça renvoie tout le monde à la case départ et est libre au prochain gouvernement de prendre les décisions qui s'y par rapport aux grandes questions.
Voilà, c'était l'opinion de certains Burkinabés sur la crise qui prévaut actuellement dans leur pays.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Plusieurs organisations de défense des droits humains ont salué l'inculpation de l'ancien leader militaire guinéen Moussa Dadis Camara dans le cadre de l'enquête sur le massacre d'au moins 157 personnes le 28 septembre 2009 à Conakry. Son avocat, maître Jean-Baptiste Jokameaba, a assisté à son audition à Ouagadougou mercredi par les magistrats guinéens. Il assure que la procédure engagée contre son client n'affecte en rien son intention de briguer la présidence. Au micro de notre correspondant, les explications de maître Jean-Baptiste Jokameaba.
J'ai tout simplement pris acte de son inculpation et j'ai demandé à que le dossier de la procédure soit mis à ma disposition pour mieux le préparer. Mais je précise, inculpation ne signifie pas qu'il est accusé. Les magistrats ont estimé qu'il existe contre lui des indices graves et concordants liés aux événements qui ont été perpétrés le 28 septembre 2009 au stade éponyme, le stade du même nom.
Il change de statut, vous l'avez dit. Alors ce changement de statut ne pose-t-il pas un problème dans sa nouvelle conquête du pouvoir puisqu'il s'est déclaré candidat à la présidence dans votre pays, la Guinée?
Je le dis fermement, énergiquement et même clairement que ce changement n'a aucun lien avec son ambition politique. Il ne peut en aucun cas être empêché dans sa conquête de l'exercice du pouvoir. Ceci ne peut arriver que lorsqu'il y a une décision définitive, une décision de condamnation qui lui prive alors de ses droits civiques, de ses droits politiques.
De la déclaration de candidature, de son alliance avec Dalène Diallo à l'inculpation, est-ce que le politique n'a-t-il pas influencé le judiciaire?
Je suis avocat. Les interprétations politiques, pour le moment, je préfère laisser cela aux politiciens interprétés. Donc, si cela a été téléguidé commandée par le pouvoir, par les politiques. Je ne peux moins vous le confirmer parce que je n'ai aucune preuve par rapport à cela. Le seul outil que nous avons, c'est bien le droit. Et nous allons tout simplement parler de droit, pas de politique.
Parlant de droit justement, avez-vous quelques éléments solides dans cette défense de Dadis là ?
Je ne vais pas malheureusement les étaler ici, ce serait compromettre la défense même de mon client. Mais je peux déjà vous rassurer que M. Dadis n'a rien à voir avec ces événements du 28 septembre. Et croyez-moi, l'histoire ou l'évolution des faits vous prouveront toute la vérité. Il ne nous appartient pas à nous, il est vrai, de prouver son innocence. Il appartient à ceux qui le poursuivent de prouver sa culpabilité. Mais nous démontrons que tout ce qu'on lui reproche ne lui ressemble même pas. Parce que ce n'est pas un homme qui peut faire du mal à une mouche. Et je suis même conscient, en bon croyant, que lorsqu'il a reçu la balle dans la tête et qu'il n'est pas mort, Dieu n'a pas voulu qu'il soit enterré dans le silence.
Au micro de Zoumana Wonogo à Ouagadougou, maître Jean-Baptiste Jokameaba, avocat de l'ancien leader militaire guinéen Moussa Dadis Camara.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Fin à Lomé ce vendredi de la deuxième conférence maritime du Togo. L'objectif de cette rencontre est de répondre aux évolutions dans les domaines sécuritaires, environnementaux et économiques et aussi de préparer le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime prévu en novembre prochain. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Après décembre 2014, le Togo a tenu les 9 et 10 juillet sa deuxième conférence maritime. Cette conférence se veut une instance de réflexion et d'analyse sur toutes les thématiques liées à l'action de l'État en mer. Stanislas Baba, conseiller du président togolais sur les questions de la mer.
Nous nous retrouvons pour deux raisons essentielles. La première, faire le bilan du chemin parcouru depuis la toute première réunion du Haut Conseil pour la mer qui a indiqué un certain nombre d'actions pour la sauvegarde de nos côtes et dans l'intérêt du développement de l'économie marine au Togo. Et dans un deuxième temps, une autre phase qui est la phase de réflexion sur certaines thématiques. Nous réfléchissons donc sur la réalité de la pêche illégale sur les côtes togolaises, sur la pollution de l'environnement marin au Togo et aussi sur les trafics de personnes, de drogue et de toutes sortes de produits illicites sur la mer.
Cette deuxième conférence sert d'une rencontre de préparation pour les experts togolais qui prendront part au sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Ce sommet, qui se tiendra en novembre prochain à Lomé, est d'un enjeu capital, nous dit Robert Doucet, le chef de la diplomatie togolaise.
C'est un honneur pour le Togo d'abriter ce sommet et surtout de réussir le challenge de faire adopter une charte à tous les pays africains pour ce sommet. Une fois que ce texte est adopté, sera présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies et une résolution sera prise, nommée la résolution de l'OMI sur la sécurité maritime en Afrique. Ce sera la première résolution de ce genre sur le continent africain.
S'agissant de la sécurité maritime, le Togo estime que les mesures prises ont porté leurs fruits, mais le pays ne veut pas rester en si bon chemin. Nissao Nyofam, ministre togolais des Transports.
Le Togo a élaboré un programme de sécurité maritime. Cette réforme a permis de mettre en place des organes. D'abord le Haut Conseil de l'action de l'État en mer, la nomination d'un préfet maritime, même la nomination d'un ministre auprès du président de la République chargé de l'action de l'État en mer. Et depuis, nous n'avons plus enregistré de problèmes majeurs sur notre côte. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons nous flatter que ces réformes portent leurs fruits. Mais ce qui nous impose de faire en sorte que déjà les acquis soient préservés et qu'on fasse mieux encore.
En ce qui concerne l'économie marine, le Togo mise sur son port en eau profonde qui vient d'élargir son parc de manutention. D'ici à fin 2015, le port autonome de Lomé veut porter à 1,2 million de conteneurs de 20 pieds sa capacité de manutention contre 350 000 conteneurs actuellement. Kay Lawson, Lomé et VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Une nouvelle journée cruciale pour la Grèce. Le Parlement du pays doit se prononcer ce vendredi sur les propositions soumises par le Premier ministre Alexis Tsipras aux créanciers, l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Elles comprennent une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des réformes des retraites et de la fonction publique afin d'augmenter les recettes de l'État en échange d'une aide financière sur 3 ans. Le vote du Parlement grec permettra ou non au gouvernement de Tsipras de négocier ce paquet de réformes. Donc le débat s'annonce houleux pour une analyse. Jacques Aristide a joint à Athènes l'économiste grec Thanos Kontargiris.
C'est des réformes très dures qui sont assez proches de celles qui avaient été proposées par M. Juncker, en tout cas dans sa deuxième version, pas celle qui a été soumise au vote, mais celle d'après. De ce point de vue-là, on peut s'attendre qu'elles créeront de nouvelles récessions en Grèce et que c'est, une fois de plus, les mesures d'austérité avec lesquelles on essaye de prétendre qu'on va résoudre le problème de la dette grecque. Ceci étant, le choix de présenter des mesures qui sont à la fois sur la base du texte de M. Juncker et qui ont été rédigées en collaboration avec des conseillers de M. Hollande est un choix qui devrait permettre d'amortir le choc des plus extrémistes parmi les Allemands et leurs satellites. Qui veulent à tout prix que la Grèce quitte la zone euro, voire l'Europe.
Justement, est-ce que le peuple grec se sent trahi après le référendum de dimanche dernier ?
Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune expression de telle sorte. Il y avait une manifestation qui était prévue, place Syntagma, peut-être il y a un peu de monde. Ceci étant, le Parlement semble devoir accepter ces mesures et la majorité actuelle tenir le choc de propositions qui sont, on doit le dire, très dures et tout à fait à contre-courant de ce que l'on souhaite ici en Grèce et de ce que l'on peut supporter ici en Grèce. Néanmoins, du point de vue des négociations, cela semblait nécessaire pour démontrer que la Grèce tient à tout prix, et y compris à ce prix-là, à rester dans l'Union européenne, à condition aussi que la question de sa dette et de sa restructuration, qui est demandée à la fois par les États-Unis, le FMI et beaucoup de gens, d'économistes, soit également examinée. Dans le cas où ça ne serait pas, il n'y aurait aucune contrepartie de cette sorte, je ne sais pas si on parviendra à un accord.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi, nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au +225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001 202 619 31 40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Issiakaba Tianguan à la console. Présentation Morgane Guériec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.